Chapitre 5, étape 2, les remèdes d'urgence. Garde-toi, dans la vie, de rien différer. Que ta vie soit l'action, encore l'action. Johann Wolfgang von Goethe. Merci de suivre ces conseils dans l'ordre où ils sont indiqués. Qu'ils deviennent pour vous comme une seconde nature. Ce sont ceux qui vont vous permettre d'aller mieux très vite. Nous verrons ensuite ensemble comment maintenir votre état de bien-être. Inscrivez-les sur votre agenda afin de n'en oublier aucun. Il ne s'agit pas pour moi de vous assommer d'exercices et de conseils en tout genre. Le risque que vous perdiez pied serait trop grand. Mais au contraire, de vous accompagner de manière structurée vers votre victoire. À retenir. Je le répéterai souvent. Ne choisissez pas les outils que vous utiliserez. Ils sont tous complémentaires les uns des autres. Vous êtes dans l'obligation de tous les mettre en pratique afin de progresser et de vous débarrasser de vos crises d'angoisse. Première phase, insultez vos angoisses. Lorsque je donne ce premier conseil, je vois à la tête des personnes qui viennent me voir en consultation qu'elles sont pour le moins étonnées, voire très dubitatives. Parfois, avec un petit sourire en coin, elles me regardent en ayant l'air de penser que je me moque d'elles ou que je suis tombée sur la tête. Et pourtant, ce simple conseil en apparence ridicule, anodin ou idiot, est une des pièces maîtresses dans votre plan qui vous mènera à la disparition de vos crises. En pratique, dès que vous sentez l'angoisse monter, appliquez cet exercice pendant plusieurs minutes s'il le faut. Vous allez, mentalement ou à voix haute si vous êtes seul, insulter vos angoisses de la manière suivante. Espèce de « tu ne m'auras pas ». Je suis plus fort que toi. Tu n'es rien. Va te faire voir. Évidemment, vous personnaliserez ces affirmations avec vos propres mots. Lâchez-vous surtout. N'ayez aucun tabou. Montrez à ces angoisses que vous n'êtes pas dupe et qu'elles n'existent que dans votre tête. Elles sont vos pires ennemis. Traitez-les comme telles. Imaginez que vous ayez un punching ball avec les deux mots « mes angoisses » inscrits dessus. Que feriez-vous ? Vous taperiez de toutes vos forces dessus afin de libérer votre colère face à cet ennemi invisible et retrouver ainsi une paix de l'esprit. De colère, vous l'enverriez virevolter dans tous les sens au risque de vous le prendre en pleine figure. Vous obtiendrez des résultats encore plus efficaces en insultant vos angoisses, car vous n'avez besoin d'aucun accessoire. Si vous savez penser, vous êtes capable de les insulter. Laissez tomber la pudeur. Si, pour vous, le mot « flûte » est la pire des insultes, ça me va. Gardez bien à l'esprit que vous devez tout lâcher et ne rien garder. Ces angoisses vous pourrissent assez la vie pour que vous ne les ménagiez pas. Le but de cet exercice est de vous dissocier de vos angoisses et de vos peurs paniques. En les personnifiant, vous conditionnez ainsi petit à petit votre esprit à les réduire à néant. Ce simple exercice a suffi à certaines personnes qui souffraient de crises d'angoisse depuis plusieurs années à retrouver une vie normale. Elles sortent aujourd'hui à nouveau de chez elles, voyagent, prennent l'avion, etc. Elles ont considéré leurs angoisses sous un nouvel angle. Cet exercice a changé leur vie, comme il va transformer la vôtre. Pratiquez-le de manière régulière et vous aurez fait un énorme pas vers votre liberté. Une fois vos angoisses insultées, accueillez votre état de bien-être avec bienveillance. Dites-vous que vous êtes bien, que vous êtes détendu, que tout va bien. Si ce livre ne devait comporter qu'un seul conseil, c'est celui-là. Alors pratiquez-le. À quel moment faut-il lancer les insultes? Dès le début de vos sensations de mal-être. Si, par exemple, vous êtes angoissé parce que vous savez que vous devrez sortir, commencez dès à présent. Quelle que soit l'échéance, insultez vos angoisses bien en amont avant que l'événement anxiogène ne commence. Si, au contraire, vous êtes pris de court et que votre crise d'angoisse se déclare sans prévenir, lancez la contre-attaque immédiatement. Attention! Insultez bien vos angoisses et non vous-même. Ne vous dites pas « espèce de » en pensant à vous. Si c'est le cas, pour vous aider, personnifiez vos angoisses. Imaginez quelqu'un qui les représente. Ne choisissez pas quelqu'un d'existant comme votre belle-mère. Ce serait contre-productif. Inventez cette personne de toutes pièces, que vous nommerez naturellement « mes angoisses ». C'est le moment d'anticiper ce premier point avec humour. Notez vos 5 insultes favorites que vous réserverez à vos crises. Deuxième phase, tenez-vous droit. Avez-vous remarqué que vous regardez le sol lorsque vous êtes en crise? Vous êtes courbé, vos épaules et votre dos se plient pour faire pencher votre corps vers l'avant. Vous essayez ainsi d'échapper à vos angoisses en vous coupant du monde qui vous entoure. Dans votre bulle, vous pensez être à l'abri. Lors d'une crise, lorsque vous vous tenez droit, vous avez l'impression que votre équilibre est instable. En vous penchant, vous tentez de vous ancrer au sol. D'ailleurs, si vous pouviez vous asseoir ou vous allonger par terre, vous le feriez. Ce n'est pas une bonne idée. Les angoisses adorent vous voir fuir. Ne capitulez pas. Ce serait donner raison à votre pire ennemi nommé mes angoisses. Vous vous rappelez? Voici pourquoi il est très important de vous redresser. En fixant le sol, tout le haut de votre corps bascule en avant. Votre cage thoracique est comprimée. La ventilation s'effectue mal. Votre rythme cardiaque s'accélère. Vous connaissez la suite. Sueur, jambes qui flageolent, panique. Quand vous sentez que ça ne va pas, tenez-vous bien droit, raide comme un piquet. Imaginez un fil d'or ou d'argent qui traverse votre colonne vertébrale de bas en haut, depuis votre périnée jusqu'au ciel. C'est un lien indestructible qui vous maintient bien droit et vous stabilise. Rien ne peut vous arriver. Vous croyez aux anges gardiens? Visualisez le vôtre, magnifique, qui se tient derrière vous en maintenant ce fil qui vous aide à vous tenir droit. De la même façon, si une personne chère est décédée, vous pourriez l'imaginer derrière vous, souriante et confiante, qui vous soutient. Bien ventiler et respirer correctement sont très importants dans la gestion de vos crises. J'y reviendrai un peu plus tard. À retenir. Regagner un capital confiance. Au début, lors d'une belle angoisse, vous n'avez qu'une idée en tête. Trouver un trou de souris, vous asseoir ou vous allonger, fermer les yeux, le tout en espérant que ce cauchemar cesse de lui-même. Vous aimeriez, en vous réveillant, vous dire que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. C'est exactement ce qu'il va se produire. Mais en attendant ce jour merveilleux et bien réel, vous devez regagner un capital confiance sérieusement écorné par votre angoisse. Les crises de panique, qui ne sont rien d'autre que des fuites devant un danger imaginaire, ne font qu'accentuer cet état. En fuyant, vous pourriez vous sentir coupable et vous dévaloriser. N'en faites rien. La situation est déjà assez pénible comme ça. Personne ne s'attend à vivre des crises d'angoisse. Alors, gardez la tête haute. Vous êtes quelqu'un de bien. Notez 5 de vos qualités tout en gardant votre dos et votre tête bien droits. Troisième phase, reliez-vous à la terre. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de mettre 3 doigts dans une prise électrique, bien que le principe et le but soient les mêmes. Stabilisez tout ce courant d'angoisse qui vous traverse et tente de vous griller. Cet exercice a pour origine les traditions extrême-orientales et indiennes. Il s'agit d'équilibrer votre corps dans l'espace en vous imaginant connecté à la Terre. Ça peut vous paraître étrange comme concept si vous n'êtes pas au fait des thérapies énergétiques. À l'inverse, si vous pratiquez un art martial, le yoga, le qigong ou le tai chi chuan, ce que je vous dis là vous est familier. En pratiquant cet exercice tous les matins avant de vous lever, vous gagnerez en assurance et en équilibre. À vous de jouer. Assis sur le bord de votre lit, les yeux fermés, imaginez des racines encercler vos cuisses, descendre le long de vos tibias et traverser vos pieds. Ces grosses racines très solides s'enfoncent jusqu'au centre de la terre. Sentez vos pieds plaqués au sol. Pratiquez cet exercice pendant une 30aine de secondes tous les jours. Il s'agit d'une visualisation. Exagérez tout. Votre imagination est sans limite. Ses racines sont très épaisses et inébranlables. Choisissez la couleur qui vous plaît. Elles peuvent être roses ou arc-en-ciel si vous le souhaitez. Elles traversent tous les matériaux depuis le dessous de vos pieds jusque dans les profondeurs terrestres. Rien ne leur résiste, que vous habitiez au 10e étage d'un immeuble ou dans une tente au ras du sol. Vous êtes un arbre qui puise l'énergie depuis les profondeurs de la terre grâce à ses racines puissantes. visualisez un magnifique chêne au milieu d'un champ. Vous êtes cet arbre qui a survécu à des centaines d'années d'histoire et d'intempéries. Je ne peux pas vous promettre que vous finirez votre vie multicentenaire, mais je peux vous assurer que cet exercice vous permettra de renforcer votre position et de vous redresser afin de mieux respirer et de voir le monde autour de vous autrement, c'est-à-dire comme la majorité des gens le perçoit. En pratique. En cas de crise, pratiquez également l'enracinement, que vous soyez debout ou assis. Insultez vos angoisses, tenez-vous droit et ancrez-vous au sol comme nous venons de le voir. Plus vous pratiquerez les exercices proposés en amont hors de vos crises, et plus votre corps et votre esprit résisteront. Je me souviens de mon premier jogging après des années de sédentarité. J'ai tenu 10 minutes. Puis, au fil des entraînements, c'est devenu plus facile. Mon corps a mieux résisté à l'effort, tandis que mon esprit l'encourageait. Même chose ici. Entraînez-vous. Une fois par jour le matin au lever suffit. Un dernier conseil. Imaginez le même arbre chaque fois. Il sera ainsi plus facile et donc plus rapide à visualiser en cas d'urgence. Cet exercice, qu'on appelle l'enracinement ou l'ancrage, ne doit pas être confondu avec l'exercice du même nom que nous verrons plus loin. Prenez du plaisir dans la pratique des exercices que je vous donne. Ils existent et vous sont présentés pour égayer et améliorer votre quotidien. Décrivez l'arbre que vous visualisez. De quelle couleur est-il? A-t-il des feuilles et d'imposantes branches? Vous fait-il penser à un vieil homme plein de sagesse ou à une gentille fée protectrice? Comment sont ses racines? Pleines de terre et boueuses ou lisses? Bien nettes ou encore brillantes? Appropriez-vous ce géant de la nature, car il vous représente. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune limite au pouvoir de votre imagination. Faites-vous plaisir. Quatrième phase, respirez. Lorsque vous sentez l'angoisse monter, le réflexe est d'augmenter à la fois la fréquence et l'intensité de vos respirations. Nous l'avons vu, en cas de crise, si vous pouviez vous terrer bien à l'abri dans le sol, vous allonger ou au moins vous asseoir, vous le feriez. Le tout en ayant le regard dirigé vers le sol. La tête se penche en avant et le haut du corps se courbe tandis que vos jambes flageolent. Vous êtes un arbre bien fragile qui se plie sous une brise légère que votre esprit prend pour une tempête. Nous sommes loin du chêne centenaire de la phase précédente. En règle générale, vous inspirez profondément avant d'expulser un maximum d'air en soufflant. Ce n'est pas une bonne idée. En effet, vous oxygénez trop votre cerveau et votre tête va tourner. Ce n'est pas le but recherché, n'est-ce pas? Je vous propose donc un exercice très simple qui a fait ses preuves. La cohérence cardiaque. Cet exercice a fait l'objet de milliers d'études scientifiques. Les conclusions démontrent clairement son efficacité en matière de stress. Il semble si facile que vous pourriez penser qu'il ne sert à rien. Détrompez-vous. La meilleure manière de s'en rendre compte est de le pratiquer. La cohérence cardiaque. Prêt? Partez. Vous êtes assis ou debout. Ayez une montre ou une horloge qui indique les secondes à portée des yeux. Inspirez pendant 5 secondes par le nez en gonflant le ventre. L'air monte dans la poitrine, vos épaules s'écartent légèrement en arrière. C'est ce qu'on appelle une inspiration abdominale. Expirez ensuite pendant 5 secondes par la bouche en rentrant le ventre. C'est excellent pour les abdominaux. Pratiquez pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Vous pouvez également utiliser cet exercice avant un événement important qui vous stresse ou pendant une crise. Autant de fois que vous le souhaitez. C'est aussi simple que ça. La respiration est calme et détendue. Ne forcez pas. Ne prenez pas de grandes inspirations. Profitez de ce moment de plénitude que vous vous octroyez. Rappelez-vous du chiffre 365. Faites 3 respirations par minute pendant 5 minutes, toute l'année, soit 365 jours. Cet exercice devient de plus en plus efficace au fur et à mesure qu'on l'exécute. Comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Vous trouverez sur Internet de nombreuses vidéos avec, entre autres, des vagues qui vous permettent de caler votre respiration sur leur mouvement. Tapez dans votre moteur de recherche préféré les mots « vidéo cohérence cardiaque ». Le problème avec Internet reste le choix pléthorique. Ne passez pas des heures à choisir le scénario qui vous convient. Parfois, les durées des inspirations et des expirations varient légèrement d'une vidéo à une autre. Ne vous inquiétez pas. Le résultat reste le même. Si vous pratiquiez cet exercice sans montre ni horloge, vous compteriez mentalement jusqu'à 5. En réalité, vous iriez trop lentement. Vos inspirations et vos expirations dureraient 7, 8 secondes, ou même davantage. Essayez tout de suite en inspirant 5 fois pendant 5 secondes et en expirant 5 fois pendant 5 secondes. Ne vous dites pas que vous n'avez pas le temps. Si vous lisez ce livre à l'extérieur de chez vous, dans les transports en commun, attablé à une terrasse de café, en pause sur votre lieu de travail ou en parachute, faites cet exercice. Dans le dernier cas, n'oubliez tout de même pas de tirer sur la poignée d'ouverture. Notez vos impressions. Prenez votre stylo favori et notez vos impressions. Comment était votre souffle? Que vous disait votre mental? Était-il calme, tranquillisé et heureux? Aviez-vous la sensation d'offrir à votre corps une pause réconfortante et bien méritée? Cinquième phase, reposez-vous. Vos symptômes sont en partie dus à la fatigue et au stress qui ont dépassé de loin leurs limites acceptables. L'erreur serait de s'occuper le corps et l'esprit en les surmenant afin de ne pas avoir le temps de penser à vos angoisses. En faisant cela, vous accentuez votre état de surmenage et les fréquences de vos crises vont augmenter, ainsi que leur intensité. Vous tenterez alors d'être encore plus dynamique, toujours en mouvement afin de leur laisser un minimum de place. Et bien sûr, vos crises vont devenir de plus en plus ingérables. Vous serez mentalement et physiquement épuisé. Allégez votre agenda. Il est grand temps de penser à vous. Exemple. Je reçois beaucoup de couples qui me disent ne pas arriver à avoir d'enfants malgré des examens médicaux parfaits. Lorsque je les interroge sur leur emploi du temps respectif, certains connaissent déjà la réponse sans s'en rendre compte. Nous travaillons énormément. Nous sortons beaucoup les week-ends, etc. Où situer la future place d'un bébé, dans une vie certes palpitante, mais comptée et frénétique? Nulle part. L'esprit est parfois assez malin pour signaler au corps que le moment est mal choisi pour enfanter. En ce qui vous concerne, bébé ou non, le constat est le même. Votre rythme de vie joue sur vos émotions et sur vos angoisses. Ralentissez si vous courez dans tous les sens. Laissez de l'espace pour vous occuper de vous et vous reposer. Si vous avez l'impression, au contraire, de tourner au ralenti, cloué chez vous, c'est votre esprit sans aucun doute qu'il faut apprivoiser, car vous vous sentez comme un lion en cage qui cogite en permanence sur les désagréments de ses crises d'angoisse. Corps et esprit vont s'harmoniser au gré des exercices que vous mettez en pratique. Il existe une règle importante dans la vie de tous les jours. Ayez de la compassion pour vous et pour les autres. Notez qu'il s'agit avant de vous et ensuite des autres. Soyez d'abord bon avec vous-même. Si vous êtes quelqu'un d'empathique, toujours prêt à rendre service, bénévole dans une association, c'est parfait. Continuez ainsi à avoir cette belle mentalité. Toutefois, comment pourriez-vous être utile aux autres si vous ne vous sentez pas bien? Si vous prenez soin de vous en priorité, ceux que vous aidez s'en trouveront également mieux. Ne cherchez pas d'excuses comme le fait que votre patron ne pourrait supporter une baisse de productivité de votre part, ou que votre conjoint ne comprendrait pas que vous vous reposiez tandis que lui travaille comme un forcené. Dans les deux cas, c'est vous qui auriez raison. Si votre état empire, ni votre employeur, ni vos proches ne seront gagnants. Levez le pied. C'est de votre vie dont il s'agit. Si vous êtes actif, rien ne vous empêche d'aller travailler, surtout si vous n'avez vécu que très peu de crises. Ne vous faites pas arrêter systématiquement en pensant éviter toute situation où, peut-être, vous seriez susceptible de subir une crise d'angoisse ou de panique. Ne fuyez pas. Vous seriez coincé à la maison entre vos quatre murs à cogiter toute la journée. Même remarque si vous pratiquez un hobby. Allez-y. Mais s'il s'agit d'un entraînement de forçat ou d'un marathon intellectuel, refusez l'invitation. Prenez du plaisir sans forcer. N'oubliez pas. Vous êtes dans une étape d'attaque. Vous devez donc prendre des décisions extrêmes pour votre bien-être. Ne vous surmenez pas. Vous surmenez et déconseillez. Notez bien que la télévision n'est pas votre meilleur allié. Encore moins les jeux vidéo. Allongez-vous, lisez, rêvassez, fermez les yeux, dormez, etc. Mettez-vous en mode hibernation. Et là, j'entends des sifflements dans mes oreilles qui m'alertent sur ce que pensent certains de mes lecteurs. Facile à dire. Avec les enfants, le travail et le quotidien de la maison, impossible de faire autrement. Je comprends cet argument. Il fut un temps de ma vie où je passais entre 3 et 4 heures par jour en voiture dans les embouteillages de la région parisienne pour travailler entre 50 et 60 heures par semaine, certes pour un job passionnant, mais où je savais que je ne tiendrais pas longtemps. La vie est faite de choix et de priorités. Si vous lisez ce livre, c'est que vous êtes en souffrance ou que vous êtes proche de quelqu'un qui l'est. Dans ce dernier cas, aidez cette personne. Prenez en charge certaines contraintes de la vie quotidienne pour la décharger. Elle doit déjà apprendre à contrer ses crises d'angoisse. Vous êtes l'un des appuis dont nous avons déjà parlé. Dans le cas où vous vous sentez bien seul à tout gérer, apprenez à classer vos priorités. Restez moins longtemps au travail, ralentissez le rythme des activités, déléguez davantage, etc. Attention, ne restez pas enfermé entre vos quatre murs toute la journée. Il s'agit de vous reposer et non d'abandonner toute activité. Sixième phase, manger correctement. Lorsqu'on n'est pas très en forme, nous cherchons à compenser notre mal-être en se faisant plaisir. Si vous êtes un épicurien de la nourriture, je vous conseille de ne pas surcharger votre organisme en graisse saturée et en sucre rapide. Je vous rappelle que vos crises d'angoisse et de panique ont une origine traumatique. Il est l'heure de vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit. Faites attention à ce que vous avalez afin d'alléger la charge de travail de vos cellules. Évitez, s'il vous plaît, les fast-foods, les plats gras et riches, ainsi que les bonbons. Le secret, comme en toute chose, est de ne pas tomber dans les extrêmes. Un hamburger par semaine est acceptable. Si c'est tous les jours, en revanche, vous ne vous aidez pas. Pour certaines personnes, un seul repas composé de graisses saturées par semaine peut menacer leur santé physique. En pratique, détoxifiez votre foie. Une bonne attitude à adopter et qui nous vient de la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, est de détoxifier votre foie en prenant tous les matins, à jeun, un grand verre d'eau bien tiède. Faites chauffer cette eau dans une casserole ou dans une bouilloire. Ne prenez pas l'eau chaude directement au robinet. Ajoutez-y le jus d'un demi-citron biologique, vous éviterez les pesticides, tous les 3 jours. Le foie est également symboliquement le siège des émotions, dont la colère. Vous gagnerez à prendre soin de cet organe, qui est le plus volumineux que vous ayez et qui pèse plus de 2 kilos. Retenez que votre organisme a besoin d'être nourri sainement durant toute la période de vos crises, fruits et légumes compris. Tout est question d'équilibre. Je ne vais pas vous demander de vous mettre à la diète. Évitez simplement les excès alimentaires. Ralentissez la consommation de certains aliments et privilégiez ceux qui sont plus bénéfiques pour diminuer vos crises d'angoisse. Si vous craquez pour un verre de vin et une part de flan, ne vous cognez pas la tête contre les murs en vous disant que vous ne vous en sortirez jamais. Car ce n'est tout simplement pas vrai. Aliments à bannir ou à fortement réduire. Les sucres raffinés. Bonbons, sodas et autres desserts sucrés font varier dramatiquement votre taux de glycémie dans le sang. Vous êtes boosté, puis d'un seul coup, votre corps est complètement à plat. Dans le cas de crise d'angoisse, nous cherchons à regagner l'harmonie sur le long terme et non à gagner un 100 mètres. Les alcools. Qu'il est bon de sentir cette très légère ivresse vous gagner après un verre ou deux d'alcool. Mauvaise idée. En effet, l'alcool désinhibe, mais fait aussi ressurgir les angoisses, y compris celles bien cachées au fond de votre esprit. À éviter absolument. La caféine. Un excitant bien connu qui stimule le système nerveux. Super. Sauf que votre système nerveux est déjà mis à mal par votre anxiété. Mieux vaut que vous vous passiez de café pendant un certain temps. Prenez-les décaféinés si vous êtes accro et ralentissez leur consommation dans tous les cas. Les aliments amis. Mangez le plus possible des aliments biologiques. Vous n'imaginez pas les traitements chimiques, aussi bien pour faire pousser les fruits et légumes plus rapidement que pour prévenir les maladies, qui sont infligés à notre nourriture. Les grandes enseignes se mettent au bio à des prix raisonnables. Voici une liste d'aliments qui vous seront bénéfiques. Si vous détestez un aliment en particulier, inutile de vous forcer. Encore une fois, cet ouvrage n'est pas un livre de torture. Le chocolat noir. Préférez celui qui renferme au moins 70% de cacao. Le magnésium qu'il contient aide à lutter contre le manque d'énergie. Et puis, il y a le plaisir à le manger, bien sûr. Les poissons gras comme le saumon. Pour leur apport en oméga-3 qui renforce notre taux de mélatonine, l'hormone du sommeil et de nos rythmes biologiques, les saumons, thon, hareng, sont bénéfiques. Malheureusement, les poissons sont aussi les premières victimes de ce que l'homme rejette dans la mer. Mangez-en, mais pas tous les jours. L'ail. Formidable pour l'haleine, l'ail n'en est pas moins un excellent antistress. Il contient entre autres du magnésium, encore lui, et du fer. C'est un aliment très complet et bénéfique qui mériterait un livre à lui tout seul. Les fruits secs. Riches en minéraux, en fibres et en vitamines, ce sont d'excellents alliés pour lutter contre vos angoisses. Les aliments complets. Ils contiennent du magnésium et des tryptophanes, précurseurs de la sérotonine, messagers chimiques ayant un rôle dans la régulation de l'humeur. La liste pourrait être longue. Encore une fois, comme vous le constatez, il y a une certaine logique dans ces quelques exemples. Privilégiez les aliments sains et réduisez fortement les autres. Trucs et astuces. Sniffez des huiles essentielles. J'inclus dans cette partie les huiles essentielles. Non pas qu'il faille les avaler, mais les sentir. Le principe est simple. Rendez-vous chez un vendeur d'huiles essentielles où des testeurs sont disponibles. Sentez quelques huiles essentielles et retenez celles qui vous procurent le plus grand bien-être. Ce peut être l'orange, qui vous rappelle les champs d'oranger de votre enfance, par exemple. Associez l'huile essentielle à un souvenir ou à un événement agréable. Achetez cette huile essentielle, et chaque fois que vous aurez un petit coup de blues, de fatigue, ou que vous sentirez l'angoisse monter, humez son odeur qui vous procurera un tel plaisir que vous en oublierez presque vos peurs. Cette douce sensation d'être dans un cocon vous réconfortera. C'est extrêmement efficace. Septième phase, ralentissez votre rythme de vie. Si vous êtes du genre à courir dans tous les sens, posez-vous. Dans le cas où vous me rétorqueriez que vous n'avez pas le temps, je répondrai qu'une nouvelle organisation est nécessaire. Chassez de votre agenda tous ces micro-instants qui polluent votre quotidien, qui morcellent votre rythme de vie et vous font perdre un temps précieux. Je vous suggère de l'optimiser en éliminant les tâches superflues. Prenez-en conscience et vous aurez fait un grand pas en avant. Couchez-vous à des heures régulières. Sortir danser, faire la fête avec des amis plusieurs fois par mois, regarder la télévision jusqu'au bout de la nuit, participer à des activités aux horaires décalés, passer vos week-ends complets hors de chez vous, etc., n'est pas recommandé tant que vous souffrirez de crises d'angoisse ou de panique. Oui aux sorties, bien sûr, mais avec mesure. Il est vital de vous poser. Votre emploi du temps. Je vous propose l'exercice suivant. Inscrivez votre emploi du temps des 7 prochains jours en toute honnêteté et sans culpabiliser. Commencez dès le lendemain. Notez simplement ce que vous ferez sans indiquer les heures. Exemple, jour 1, lever, petit déjeuner, emmener enfant à l'école, cours de peinture, course, déjeuner, sieste, repassage, enfant école, goûter, devoir, dîner, vaisselle, télé, etc. Jour 2, lever, sortie du chien, petit déjeuner, transport en commun, travail, déjeuner, travail, course, pressing, cours de Zumba, dîner, etc. Vous avez compris le principe. À vous. Faites ensuite le point en aménageant votre emploi du temps. Si vous êtes en couple ou entouré de votre famille, arrangez-vous pour trouver des créneaux de repos. Élaguez lorsque votre emploi du temps est surchargé. Un cours de Zumba suivi d'un verre entre amis avant le cinéma et un petit restaurant est une accumulation d'activités qui nuit à la disparition de vos crises d'angoisse. Faites des choix. Huitième phase, sortez de chez vous tous les jours. Voici sans doute l'un des exercices les plus difficiles à mettre en application. Je pense notamment à ceux qui ont des crises d'angoisse depuis des mois, voire des années. Faire un pas à l'extérieur de chez vous non accompagné vous tétanise. Vous avez sans doute peur de vous sentir mal et de subir les foudres d'une crise dévastatrice qui va vous clouer sur place. Je comprends. Toutefois, les conseils précédents vont vous aider à franchir le pas. C'est pourquoi cet exercice est la dernière phase de cette étape. Comme vous l'avez sans doute pressenti, je vous demande de sortir seul de chez vous au moins une fois par jour. Pour certains d'entre vous, ce sera très facile, et pour d'autres, un cauchemar. Dans tous les cas, faites-le. Que ce soit pour marcher 10 mètres et revenir chez vous ou pour aller travailler durant toute une journée, l'important pour moi, et surtout pour vous, est que vous sortiez. Faites-vous violence. Acceptez que votre tête tourne, que vos jambes flageolent et que votre esprit vacille. Aucune excuse. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, aérez-vous en dehors des limites de votre habitation. Ne vous isolez pas. Si je vous prodigue ce conseil, ce n'est certainement pas pour que vous oxygéniez vos poumons. Dans le cas où vos crises d'angoisse ne font que commencer, vous pourriez même trouver cette recommandation bizarre. Effectivement, pour le commun des mortels, une journée sans sortir peut être reposante. Mais malheureusement, vous ne faites plus partie de cette caste de privilégiés. Temporairement, en tout cas. Vous souffrez d'une pathologie qui menace de vous enfermer à tout jamais entre vos quatre murs. Comme je l'ai déjà expliqué, si l'intensité et la fréquence des crises s'amplifient à des endroits différents, vous finirez par ne plus aller nulle part. Votre seul refuge restera votre lieu d'habitation. Enfin, c'est ce que vous pensiez car, un jour, vous pourriez très bien subir une crise d'angoisse dans l'une des pièces de votre maison ou de votre appartement. Petit à petit, vous éviterez de vous y rendre. Si c'est une cave, vous pourrez sans doute gérer le fait de ne plus vous y rendre. En revanche, imaginez que vous ne puissiez plus vous rendre aux toilettes, dans la salle de bain, la chambre, le salon ou la salle à manger. Nous allons tout de suite éviter cette situation extrême. Si vous êtes déjà arrivé à ce stade, appliquez soigneusement tous les conseils précédents et mettez un pied hors de chez vous. Au début, faites-vous accompagner par l'un de vos appuis. Puis, laissez-le vous regarder de loin afin que vous marchiez de vos propres ailes. Enfin, sortez seul de chez vous. Mieux vaut que vous fassiez une dizaine de mètres et reveniez plutôt que de ne pas sortir du tout. Si vous avez souffert d'une première crise d'angoisse suivie d'une panique, réagissez vite. Dès le lendemain, sortez de chez vous. Ne trouvez aucun prétexte. Quelle que soit la météo ou la situation, mettez le nez dehors. À vous de jouer. Où sortirez-vous demain? Après-demain? Lorsque vous reviendrez, que ce soit après 5 minutes ou 10 heures d'absence hors de chez vous, félicitez-vous. Encouragez-vous. Génial, j'ai réussi. Je suis le meilleur. Super, j'ai vaincu mon angoisse. Comme toujours, restez dans l'affirmative et le présent. Évitez, je n'aurai plus de crise d'angoisse. Cette remarque est valable à tous les stades de votre rétablissement. Chacune de vos petites victoires est un pas de plus vers votre triomphe. À force de pratiquer l'autocongratulation, vous renforcerez votre mental. En résumé, voici les points essentiels de cette deuxième étape. 1. Insultez vos angoisses. 2. Tenez-vous droit. 3. Reliez-vous à la terre tous les matins pendant 30 secondes. 4. Respirez. Pratiquez la cohérence cardiaque 3 fois par jour. 5. Reposez-vous. 6. Alimentez-vous correctement et respirez une huile essentielle. 7. Ralentissez votre rythme de vie. 8. Sortez tous les jours de chez vous. Voici le schéma classique des actions à entreprendre. Une fois guéri, à la moindre alerte, vous insulterez copieusement vos angoisses ridicules qui pointent le bout de leur petit nez. Tenez-vous droit et vous soulagerez votre corps du manque d'air. Respirez correctement afin d'améliorer votre résistance au stress et à la déprime sans médicaments. Enfin, évitez le burn-out dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes un être humain. Lorsque vous tirez trop sur la corde, tout votre être vous rappelle à l'ordre. Prenez soin de lui, et il prendra soin de vous. Pendant combien de temps devez-vous suivre ses conseils? Toute votre vie, bien sûr. Enfin, presque. Nous verrons à la fin de ce livre comment gérer votre vie d'après-crise.